Chapitre 6. Sur le chemin du dos de la tortue. 1. Voyez, je vous prie, et regardez bien, car c'est l'un des lieux les plus splendides qui demeurent en Amérique. Je voudrais vous montrer un chemin de terre, tout simple, du Maine occidental, qui serpente le long d'une corniche escarpée et recouverte de bois dense, et débouche en pointe au nord et au sud sur la route 7, à environ 3 kilomètres d'intervalle. Juste à l'ouest de cette corniche, comme une monture de joaillier, le paysage dessine une fossette de verdure profonde. Au fond, pierre dans la monture, apparaît le lac Quasar. Comme tous les lacs de montagne, il peut changer d'aspect jusqu'à une demi-douzaine de fois par jour, car ici le climat est plus que capricieux. À moitié fou serait parfaitement approprié. Les autochtones seront ravis de vous parler des tempêtes de neige qui se sont déjà abattues ici en plein mois d'août. C'était en 1948. Et une fois même au beau milieu de la forêt nationale. En 1959. Et ils seront encore plus exaltés en vous faisant le récit détaillé de la tornade qui est venue balayer la surface gelée du lac en janvier 1971, aspirant la neige et engendrant un mini tourbillon avec des éclairs en son centre. Difficile de croire à ce temps sans queue ni tête, mais allez donc interroger Gary Berker si vous ne me croyez pas. Il a la preuve en photo. Aujourd'hui, le lac au fond de l'enclave est plus noir que le plus sombre des péchés, reflétant les têtes de cumulonimbus qui s'accumulent au-dessus de ses eaux et rendant encore plus lugubre l'atmosphère ambiante. De temps à autre, un dard argenté vient zébrer ce miroir d'obsidienne lorsqu'un éclair surgit des nuages comme un poignard. Le tonnerre parcourt les cieux congestionnés d'est en ouest, en grondant comme les roues d'une gigantesque bucca de pierre dans un chemin céleste. Les pins et les chênes et les bouleaux sont immobiles et le monde entier retient son souffle. Toutes les ombres ont disparu. Les oiseaux se sont tus. Dans le ciel, un nouveau chariot avance solennellement en grondant et dans son sillage, écoutez donc, on entend un moteur. Peu après, la Ford Galaxy poussiéreuse de John Cullum apparaît avec le visage anxieux d'Eddie Dean tendu au-dessus du volant, les phares déjà allumés dans l'obscurité croissante. 2. Eddie ouvre la bouche pour demander à Roland combien de temps encore il devrait rouler, mais il le savait très bien. La pointe sud du chemin du dos de la tortue était indiqué par un panneau orné d'un grand 1 noir, et chacune des bifurcations à gauche, vers le lac, était signalée de la même manière, avec un chiffre plus élevé. Ils aperçurent de l'eau à travers les arbres, mais les maisons elles-mêmes se situaient en contrebas, nichées hors de leur vue. Eddie sentait comme un goût d'ozone et d'huile électrique à chaque inspiration et dut par deux fois se tapoter les cheveux sur la nuque, ayant vraiment l'impression qu'il s'était dressé tout seul sur sa tête. Ce n'était pas le cas, mais ça ne changea strictement rien à l'état d'anxiété mêlé d'une ivresse étrange qui traversait tout son être, qui lui soulevait le plexus comme un disjoncteur en surchauffe et se diffusait ensuite dans tout son corps. C'était dû à l'orage, bien entendu. Il faisait juste partie de ces gens qui les sentent arriver avec leurs nerfs. Mais jamais il n'en avait senti approcher de semblable à celui-ci.
Ce n'est pas que l'orage, et tu le sais très bien.
Non, bien sûr que non. Même s'il pensait que tous ces volts fous en liberté pourraient peut-être faciliter l'entrée en contact avec Susanna. Les ondes allaient et venaient, comme parfois dans les stations de radio lointaines, la nuit. Mais depuis leur rencontre avec « Toi, enfant de Roderick, toi, abîmé, toi, perdu », Chevin de Shaven, c'était devenu beaucoup plus fort.
parce qu'il soupçonnait toute cette partie du Maine d'être translucide et proche de nombreux mondes. Tout comme leur cathète, qui était de nouveau presque au complet. Car Jake se trouvait avec Susanna, et ils semblaient tous deux sains et saufs, pour l'instant. En outre, ils avaient mis une porte massive entre eux et leurs poursuivants. Pourtant, quelque chose les attendait. Ces deux-là. Quelque chose dont Susanna ne voulait pas parler ou qu'elle ne parvenait pas à éclaircir. Eddie avait senti à la fois l'horreur qu'inspirait cette chose à la jeune femme et sa peur panique qu'elle revienne. Et il croyait savoir de quoi il s'agissait. Du bébé de Mia, qui était aussi celui de Susanna, d'une manière qu'il ne comprenait pas encore complètement. Comment une femme armée pouvait-elle avoir peur d'un nouveau-né? Voilà qui lui échappait. Mais ce qu'il savait, c'est qu'elle était affolée et qu'elle devait avoir de bonnes raisons de l'être. Ils passèrent devant un panneau indiquant « Fen 16 », puis un autre disant « Israël 18 ». Puis la route décrivit une courbe et Eddie écrasa les freins de la galaxie, arrêtant net la voiture dans un nuage de poussière. Garé sur le bord de la route, à côté d'un panneau « Beckhardt 20 », se trouvait une camionnette Ford qui leur était familière. Et un homme plus familier encore, appuyé nonchalamment contre l'aile rouillée du véhicule. Il était vêtu d'un jean à revers et d'une chemise de batiste impeccablement repassée, boutonnée jusqu'à son menton rasé de frais. Il portait en outre une casquette de baseball aux couleurs des Red Sox de Boston, légèrement penchée sur le côté, comme pour dire « Je t'ai grillé au poteau, mon vieux ». Il tirait sur sa pipe, de laquelle montait une fumée bleue qui semblait suspendue autour de son visage, ridé et jovial, dans l'air chargé de fièvre qui attendait l'orage. Eddie vit tout ça avec une clarté amplifiée par son état de nervosité extrême, conscient qu'il souriait comme quand on croise un vieil ami dans un lieu insolite, au milieu des pyramides en Égypte, sur le vieux marché de Tanger, sur une île, au large de Formose, ou bien sur le chemin du dos de la tortue, par un après-midi orageux de l'été 1977. Et Roland souriait lui aussi. Cette grande brute, ce truand affreux qui souriait. Il fallait encore croire au miracle, semblait-il. Ils descendirent de voiture et allèrent rejoindre John Cullum. Roland leva le poing à son front et fléchit légèrement le genou.
« Aïe, John, je vous vois fort bien. »«
Pour sûr, je vous vois moi aussi, » répondit John Cullum, comme le nez au milieu de la figure.
Il esquissa un salut sous la visière de sa casquette, puis il adressa un mouvement de menton à Eddie.
« Jeune homme, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. » fit Eddie en portant les doigts à son front.
Il n'était pas de ce monde, plus de ce monde, et c'était un soulagement pour lui de ne plus avoir à faire semblant.
« C'est un bien joli dicton, » fit remarquer John avant d'ajouter. « Je vous ai battu sur ce coup-là. Je m'en doutais un peu, à vrai dire. »
Roland balaya du regard les bois environnants, puis la bande sombre et chargée au-dessus de leur tête.
« Je pense que ça n'est pas exactement l'endroit. »
Dans sa voix perçait l'ombre d'une question.
« Non, ça n'est pas l'endroit où vous voulez atterrir, » confirma John en tirant sur sa pipe. « L'endroit qui vous intéresse, je suis passé devant en chemin. Si vous voulez vous rendre là-bas, je vais vous dire une bonne chose. Vous allez rester comme deux ronds de flanc. J'ai jamais vu un truc pareil. »
Pendant un instant, son visage rayonna comme celui d'un gamin qui vient d'attraper sa première luciole dans un pot en verre. Et Eddie comprit qu'il pesait ses mots.
« Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des entrants ou une porte ?»
L'idée lui traversa l'esprit, puis ne la quitta plus.
« C'est bien une porte, n'est-ce pas? Elle est ouverte !»
John commença par secouer la tête, puis parut réfléchir.
« C'est peut-être bien une porte.
faisant durer le mot comme quelque chose de très précieux, comme un long soupir à la fin d'une rude journée. Une porte. On peut pas dire que ça ressemble franchement à une porte, mais pour sûr, ça pourrait. Y aurait quelque chose dans cette lumière-là?
Il eut l'air de faire des calculs.
Pour sûr. Mais je pense que vous voulez pas palabrer, les gars. Et si on va là-bas, à Karakiri, y aura pas de palabre. Y aura que vous, bouche bée.
Callum balança la tête en arrière et éclata de rire.
Et moi, tout pareil.
C'est quoi, Karakiri?
Hasarda Eddie. John haussa les épaules.
Des tas de gens qui ont des propriétés en bord de mer donnent des noms à leur maison. Ça doit être parce qu'elle leur coûte un paquet, alors ils veulent que ça en jette. Bref, Kara est vide en ce moment. Elle appartient à une famille de Washington, les McRae. Mais ils l'ont mise en vente. Et ils ont pas eu de peau. Le type a fait une attaque et elle...
Il mima quelqu'un en train de boire à la bouteille. Eddie hocha la tête. Il y avait pas mal de choses qu'il ne comprenait pas dans cette quête de la tour. Mais il y en avait aussi un certain nombre qu'il percevait d'instinct. L'une d'elles était que le cœur de l'activité des entrants dans cette partie du monde était cette maison sur le chemin du dos de la tortue que John Cullum appelait Karakiri. Et quand ils arriveraient là-bas, ils constateraient que le numéro à l'entrée serait le 19. Il leva les yeux et vit que les lourds nuages glissaient vers l'ouest, au-dessus du lac Khazar, vers les monts blancs aussi, ce qu'on appelait sans doute Discordia dans un monde pas si loin de celui-ci, et le long du sentier du rayon. Toujours le long du sentier du rayon.
« Qu'est-ce que vous suggérez, John ?» demanda Roland.
Callum fit un signe de tête en direction du panneau Beckhart.
« J'entretiens la propriété de Dick Beckhart depuis la fin des années 50. Un sacré chic type. Elle est à Washington ces temps-ci, travaille pour le gouvernement Carter. »«
Caltel. » »«
J'ai les clés. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire une pause là-bas. Il y fait chaud et sec, et je pense qu'on pourra pas en dire autant si on reste planté là. » Vous aurez qu'à raconter votre histoire et moi j'écouterai. S'il y a bien un truc que je sais faire, c'est ça. Et pendant ce temps-là, on fait la route jusqu'à Kara. Jamais...
Il secoua la tête, prit sa pipe d'une main et les fixa tous deux avec un regard totalement ébahi.
Jamais j'ai vu un truc pareil, je peux vous le dire. En fait, je savais même pas comment regarder.
« Allons-y, » l'interrompit Roland. « Nous ferons tous la route dans votre cartomobile, si cela vous sied. »«
Ça me sied tout à fait bien, » opina John en montant à l'arrière.
3. La maison de Dick Beckhart se situait à environ 600 mètres plus bas. Elle avait des murs en lambris et tout le confort possible, un poêle dans le salon et un tapis galonné au sol. Une grande baie vitrée donnait à l'ouest et Eddie resta un moment là à regarder dehors, malgré l'urgence qui les pressait. Le lac avait pris des teintes d'ébène morte qui donnaient froid dans le dos. « Comme l'œil d'un zombie, se dit-il, sans avoir la moindre idée d'où lui venait cette image. Il se disait que si le vent se levait, ce qui se produirait sans doute quand la pluie viendrait, la surface de l'eau se mettrait à moutonner, ce qui rendrait le spectacle moins effrayant. On n'aurait plus cette impression d'être observé. John Cullum prit place à la table de pain verni de Dick Beckhart, retira son chapeau et le tint entre les doigts crispés de sa main droite. Il jeta à Roland et à Eddie un regard grave.
« On se connaît fichtrement bien pour des types qui se connaissent depuis pas bien longtemps, » fit-il. « Vous trouvez pas ?»
Tous deux acquiescèrent. Eddie s'attendait à tout moment à entendre le vent se lever, mais le monde s'obstinait à retenir son souffle. Il était prêt à parier que ce serait la tempête du siècle quand elle se déclencherait. C'est comme ça que les types se connaissent dans l'armée, ajouta John. À la guerre. L'armée est gueule, avec un accent de la Nouvelle-Angleterre tellement marqué qu'il en devenait inimitable. C'est toujours comme ça dans les moments importants, j'ai remarqué.
Si fait, confirma Roland. La mitraille, ça crée des liens, comme on a coutume de dire.
Ah ouais? Je sais que vous avez des choses à me raconter, mais avant de commencer, il faut que moi je vous dise quelque chose. Et je veux bien embrasser un cochon si ça vous met pas le sourire.
Quoi?
Demanda Eddie. Eldon Royster, le shérif du comté. Il a mis 4 types en garde à vue à Auburn il y a 1 heure ou 2. Il semblerait qu'ils aient essayé de fausser compagnie à un barrage de police sur la route des bois et qu'ils se soient méchamment embourbés.
John remit sa pipe en bouche, sortit une allumette de sa poche de chemise et posa le pouce sur la pointe. Pour l'instant, il n'avait visiblement pas l'intention de la gratter.
Et la raison pour laquelle ils essayaient de filer en douce, c'est qu'il trimballait un véritable arsenal.
Arsenal.
Des mitraillettes, des grenades et aussi quelques-uns de ces trucs qu'on appelle des C4. L'un de ces types, je crois bien vous avoir entendu dire son nom. Jack Andolini.
Et sur ces mots, il enflamma la pointe bleue soufrée de son allumette. Eddie s'affala sur l'une des chaises très chics de Cy Beckhart, leva le nez vers le plafond et laissa échapper un rire tonitruant à faire vibrer la charpente.
Quand on le chatouillait un peu, constata Roland, personne ne savait rire comme Eddie Dean.
Du moins pas depuis que Cuthbert Talgood avait pénétré dans la clairière au bout du sentier.
Le beau Jack Andolini, le cul posé dans une tôle de campagne de l'état du Maine. Qu'on me roule dans le sucre et qu'on me traite de gaufre à la confiture. Si mon frère Henry pouvait être encore en vie pour voir ça.
Et c'est alors qu'Eddie prit conscience de ce que Henry était, sans doute vivant en ce moment même. Une version de lui, du moins. À supposer que les frères Dean existent dans ce monde-ci.
Pour sûr, je me disais bien que ça vous ferait plaisir. Fit John en approchant du foyer de sa pipe la flamme qui consumait l'allumette à toute vitesse.
Il était visiblement ravi lui aussi. Il souriait tellement qu'il avait du mal à allumer son tabac.
« Ah, bon sang de bonsoir !»
fit Eddie en s'essuyant les yeux.
« Voilà qui éclaire ma journée, voire toute cette foutue année !»«
Et ce n'est pas tout, » fit John, « mais on va s'arrêter là pour le moment. »
Sa pipe avait enfin démarré et il s'installa plus confortablement dans sa chaise, le regard passant de l'un à l'autre de ces étranges vagabonds qu'il ne connaissait pas la veille encore. Des hommes, dont le cas était maintenant intimement lié au sien, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté.
Pour l'instant, je voudrais entendre votre histoire et savoir un peu ce que vous attendez de moi.
Quel âge avez-vous, John ?
Lui demanda Roland.
Je suis encore assez jeune pour démarrer au quart de tour, répondit John un peu froidement. Et toi, mon pote, combien de fois tu as soufflé les bougies ?
Roland lui adressa un sourire, le genre qui signifiait
« C'est pigé, on peut passer à autre chose ».
C'est Eddie qui parlera pour nous deux, fit-il. Ils en avaient décidé ainsi sur le chemin en revenant de Bridgeton.
Mon histoire à moi est bien trop longue.
Vraiment? Vous dites ainsi?
Si fait. Qu'Eddie vous raconte son histoire, ce qu'il aura le temps d'en dire, et ensuite nous vous dirons tous deux ce que nous attendons de vous. Et alors, si vous êtes d'accord, il vous donnera quelque chose qu'il vous faudra remettre à un certain Moses Carver. Et moi, je vous en donnerai une autre.
John Cullum réfléchit un instant, puis hocha la tête. Il se tourna vers Eddie. Eddie inspira profondément.
Ce qu'il faut que vous sachiez avant tout, c'est que j'ai rencontré ce type ici présent au beau milieu d'un avion allant de Nassau aux Bahamas jusqu'à Kennedy Airport à New York. À l'époque, j'étais accro à l'héroïne, et mon frère également. Je faisais la mule avec un chargement de cocaïne.
« Et c'était quand, fiston ?» demanda John Cullum.
« Pendant l'été 1987. »
Ils purent lire l'étonnement sur le visage de John Cullum, mais aucune trace d'incrédulité.
« Alors vous venez vraiment de l'avenir, Boudiou ?»
Il se pencha en avant dans les volutes de fumée odorante.
« Fils, raconte ton histoire et n'en saute pas une seule ligne, bon Dieu !»
4. Il fallut à Eddie près d'une heure et demie, et par souci de concision, il en sauta bel et bien quelques passages. Lorsqu'il eut fini, une nuit précoce s'était installée sur le lac, en contrebas. Et l'orage qui menaçait n'éclatait toujours pas, mais ne changeait pas de décor non plus. Au-dessus de la maison de Dick Beckhart, le tonnerre grondait parfois, claquant si violemment par moments qu'ils sursautaient tous les trois. Un éclair vint perforer le lac étroit en son centre, illuminant brièvement toute la surface d'un voile délicat, mauve et nacré. Le vent se leva, faisant vibrer des voix dans les arbres. Et Eddie pensa « Ça va venir, c'est sûr, ça va craquer maintenant ». Mais rien ne se produisit. L'orage, comme immobile, ne s'éloigna pas, et cet état de suspension, comme une épée retenue par un fil presque invisible, lui rappela la longue et étrange grossesse de Susanna qui avait maintenant pris fin. Vers 7 heures, il y eut une coupure de courant et John fouilla dans les placards de la cuisine, finissant par dénicher une cargaison de bougies, tandis qu'Eddie continuait à parler. Des anciens de River Crossing, des démons de la cité de Ludd, des paysans terrorisés de Calabrin Sturgis, où ils avaient rencontré un prêtre défroqué qui semblait tout droit sorti d'un livre. John posa les bougies sur la table, ainsi que des crackers et du fromage, et une bouteille de thé glacé. Eddie termina par leur visite à Stephen King, racontant comment le pistolero avait hypnotisé l'écrivain de sorte qu'il ne se rappelle rien, puis expliquant qu'ils avaient entreaperçu leur amie Susanna avant d'appeler John Cullum parce que, comme l'avait dit Roland, il n'avait personne d'autre à appeler dans ce monde. Lorsqu'Eddie se tut, Roland parla de leur rencontre avec Chevin de Shaven sur le chemin qui les avait menés ici. Le pistolero posa la croix d'argent qu'il avait montrée à Chevin sur la table, près de l'assiette de fromage. John caressa les fins maillons de la chaîne de son pouce épais. Puis, pendant un long moment, ce fut le silence. Lorsqu'il n'en put plus, Eddie demanda au vieux bricoleur ce qu'il avait cru de toute cette histoire.
« Le tout, » répondit-il sans l'ombre d'une hésitation, « il faut que vous preniez soin de cette rose à New York, pas vrai ?»«
Oui, » acquiesça Roland,
« parce que c'est elle qui a sauvé un des rayons, alors que presque tous les autres ont été détruits par ces espèces de télépathes, là, les briseurs. »
Eddie fut abasourdi de constater avec quelle rapidité et quelle aisance Cullum avait tout emmagasiné. Mais peut-être que ça n'avait rien d'extraordinaire. Les yeux neufs voient plus clair, comme aimait à le répéter Susanna. Et Cullum était typiquement ce que les gris de Ludd auraient appelé un mec gâche.
« Oui, » fit Roland, « vous dites vrai. »
La rose prend soin d'un des rayons, c'est Stephen King qui est responsable de l'autre. En tout cas, c'est ce que vous croyez.
Ça vaut le coup de le surveiller, John, affirma Eddie. Ne serait-ce que parce qu'il file un mauvais coton. Mais une fois qu'on aura quitté ce monde de 1977, on ne pourra pas revenir vérifier que tout va bien pour lui.
Et King n'existe dans aucun des autres mondes? Demanda John.
« Sans doute pas, » dit Roland.
« Et même s'il existe, » ajouta Eddie, « ce qu'il y fait n'a aucune importance. Le monde clé, c'est celui-ci. Celui-ci est celui d'où vient Roland.
Ces deux mondes sont jumeaux. »
Il jeta un œil à Roland pour avoir confirmation. Roland opina du chef et alluma la dernière des cigarettes que John lui avait donnée plus tôt.
« Je pourrais peut-être garder un œil sur Stephen King, » proposa John. « Il n'a pas à le savoir, d'ailleurs. Enfin, si je reviens de votre foutu boulot à New York, je veux dire. Je me suis fait une petite idée de l'affaire, mais vous feriez peut-être mieux de me mettre les points sur les i. »
De la poche arrière de son jean, il extirpa un vieux carnet avec les mots « mid-mémo » inscrits sur la couverture verte. Il le feuilleta presque jusqu'à la fin, trouva une page vierge, sortit un crayon à papier de sa poche de chemise, en lécha la mine, Eddie réprima un frisson, et les fixa tous deux avec cet air du bon élève le jour de la rentrée.
« Maintenant, mes chéris, pourquoi vous ne raconteriez pas le reste à l'oncle John ?»